Justice sociale, chacun pour tous et tous pour un, la responsabilité individuelle va-t-elle supplanter la solidarité? Dans l'actualité des idées aujourd'hui, retour sur les déclarations sociales ou asociales d'Emmanuel Macron, avec notre invité le sociologue Nicolas Duvoux, professeur à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Il est également rédacteur en chef de lavidesidées.fr. Parmi ses publications, le nouvel âge de la solidarité, pauvreté, précarité et politique publique paru au Seuil, l'autonomie des assistés, sociologie des politiques d'insertion au PUF en 2009. Il a également dirigé avec Robert Castel l'avenir de la solidarité, coécrit avec Serge Pogam la régulation des pauvres et avec Isabelle Astier la société biographique, une injonction à vivre dignement. Bonjour à vous Nicolas Duvaux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il y eut d'abord ces mots qui ont volontairement fuité et qui ont beaucoup fait parler. On met un pognon de dingue dans les minima sociaux. Il ne manquait plus qu'une bande-son à cette déclaration. Nous l'avons peut-être retrouvée.
Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus.
Petit clin d'œil et plaisir de retrouver les années 80, Nicolas Duvaux. Emmanuel Macron est-il un antisocial à sang-froid ?
Les déclarations qui ont été diffusées, parce qu'elles ont été diffusées avant un discours à la mutualité, laissent entendre qu'il n'y aura pas d'effort sur les prestations sociales, ou en tout cas que leur utilité, leur efficacité est remise en cause. Donc, de ce point de vue-là, on est très clairement dans une ligne qui considère que l'ensemble des aides monétaires, des politiques de solidarité sont dans un constat d'échec. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Emmanuel Macron a ouvert un débat qui n'est pas fini en posant très clairement une ligne.
Est-ce qu'il a pour vous cette semaine, parce qu'on l'a aussi beaucoup critiqué, pour certains caricaturé, confirmé qu'il n'avait pas une fibre sociale, ou est-ce que quand il dit « je n'ai pas le sentiment que lorsque l'on redresse l'économie, on soit contre le modèle social », il a raison. C'est-à-dire est-ce qu'on peut faire du redressement économique sa priorité tout en mettant en place un système social à l'adresse des plus défavorisés, qui tiennent la route et qui ne soient pas incompatibles?
Je crois qu'il y a deux questions dans ce que vous posez. La première, c'est quelle est l'idéologie politique et économique du président de la République, telle qu'on peut la lire à travers un ensemble de réformes, les ordonnances sur le marché du travail, la réforme des retraites telle qu'elle est annoncée, de l'assurance chômage, où là, il y a très clairement une ligne qui est de dire il y avait un monde ancien, avec des syndicats, du paritarisme, des assurances, et il y a un monde nouveau dans lequel c'est l'État qui va fixer les règles du jeu de manière beaucoup plus ferme, et avec une orientation, on va dire, vers le marché et vers l'économie, vers l'emploi, qui est très très dessinée. Après, quand on regarde le sujet plus précis des aides sociales, là, on entre dans une autre discussion, parce que les aides sociales, et c'est là qu'il y a une ambiguïté très forte, c'est que les aides sociales ne sont qu'une petite partie du système de protection sociale. Alors, évidemment, c'est celles qui politiquement sont les plus ciblées, parce qu'elles touchent des populations très fragiles, et puis parce que vous et moi qui payons des impôts, les payons. Mais ne les touchons pas, ce qui est très différent des assurances sociales où, quand on contribue pour la retraite, eh bien, on finit par toucher quelque chose à la fin. Donc, si vous voulez, ces aides sociales destinées aux pauvres sont les usual suspects, sont un peu toujours les cibles du discours politique. Et de ce point de vue-là, ce qui surprend, c'est le fait qu'on a une ligne qui dit, au fond, c'est l'emploi qui résoudra la question des personnes qui sont en situation de pauvreté, de difficulté, et les aides sociales, elles, les enferment. Alors, dans ce diagnostic-là, il y a quelque chose qui manque, c'est que et il y a quelque chose qui est vrai. Ce qui manque, c'est de dire que s'il y a des prestations sociales qui se sont développées, c'est parce qu'il y a du chômage et parce que les protections sociales classiques se sont effritées, se sont limitées. Il faut rappeler qu'il y a un chômeur sur deux qui est indemnisé en France. Les autres, ils basculent dans la solidarité nationale, dans les aides pour les pauvres. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a eu un très très grand renforcement de la population qui vit, qui survit grâce à ces aides sociales, qui sont d'un montant relativement faible, très faible en réalité, eh bien, c'est précisément parce qu'il y a eu un regain de chômage depuis la crise de 2008 et que les départements qui mettent en œuvre ces politiques se sont vus asphyxiés et ne peuvent plus déployer de ressources pour accompagner les gens vers l'emploi, mais aussi vers la santé, vers tout un ensemble de besoins sociaux. Donc, si vous voulez, il y a des éléments qui renvoient à des constats objectifs, factuels. On n'accompagne pas assez les gens, on ne déploie pas assez de ressources pour les permettre de sortir de la pauvreté. Mais il y a des choses, comme le constat d'échec des aides sociales, qui ne correspond pas à la réalité. Parce que ces aides sociales, elles permettent, à un coût très limité pour la collectivité, c'est 2% du produit intérieur brut, l'ensemble des aides sociales. Les minima sociaux dont on parle, c'est 25 milliards d'euros. Les dépenses de protection sociale, c'est plus de 700 milliards d'euros. Donc voilà, c'est vraiment pas une goutte d'eau, mais c'est qu'une petite partie. Et c'est celle-là qu'on cible parce qu'elle touche et elle s'adresse aux plus faibles.
Mais depuis la réforme du travail jusqu'à ce que vous avez entendu mercredi devant le congrès de la Mutualité française à Montpellier, le président s'est exprimé. Est-ce que vous entendez, vous percevez, Nicolas Duvoux, un changement de paradigme? Ou pour reprendre le titre de vos ouvrages, est-ce qu'on ne serait pas en train d'entrer dans un nouvel âge de la solidarité avec une réforme profonde de notre modèle social?
Là aussi, il y a deux points. Le premier, c'est dans le système de protection sociale en général, avec toutes les réformes que vous avez évoquées. Là, il est très clair que le président de la République a une vision. On peut dire que de la même manière que dans le champ politique, son élection a considérablement rebattu les cartes, de la même manière, dans le champ social, c'est, on pourrait dire, le premier président, a considéré qu'il faut vraiment changer de modèle, d'ensemble, par rapport à celui qui a été fondé en 1945 sur les assurances sociales à l'issue des réflexions du Conseil national de la résistance. Et ça, c'est très clair pour lui, avec un diagnostic qui est de dire, en fait, ce modèle n'est plus adapté à la société dans laquelle on vit, dans laquelle on change d'emploi tout le temps, donc on a besoin de se former en permanence. Le vrai problème, c'est les inégalités d'accès à la formation, à l'éducation, etc. C'est ça.
Ce constat, il vous semble juste, celui qu'il fait ?
Il est en partie juste dans la mesure où le système de protection sociale, il est dualisé, c'est-à-dire nos grandes institutions, elles ne couvrent plus qu'une partie de la population. Et précisément, ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui en sont sortis, bénéficient des aides sociales. Donc c'est là qu'on arrive au deuxième point, c'est qu'on va traiter comme un problème isolé ce deuxième segment de la protection sociale qui a été inventé il y a une trentaine d'années avec le RMI et qui n'a cessé de se développer du fait du chômage et aussi du fait de la restriction des autres pans de la protection sociale comme le chômage. Mais on va s'adresser à celui-là en négligeant le fait que les aides sociales, en fait, elles solvabilisent, elles permettent aux ménages de survivre. Les APL, le RSA, les allocations familiales composent l'essentiel du budget des ménages et des individus, les personnes les plus pauvres dans notre société. Et donc là, je crois que Emmanuel Macron se situe plutôt dans une forme de continuité avec un diagnostic qui était déjà très largement présent sous le mandat de Nicolas Sarkozy, qui n'a jamais cessé en fait d'influencer nos décideurs depuis une vingtaine d'années, à savoir que quand on a créé ces prestations sociales pour des gens qui sont en situation de pauvreté, le vrai risque, c'est que on les enferme dans ce qu'on appelle une trappe à inactivité. C'est-à-dire qu'on les désincite à reprendre un emploi, même peu rémunéré, même peu gratifiant, même peu qualifié sur le marché du travail. Donc là, sur cet enjeu-là, c'est de dire notre système ne marche pas parce que au fond, on est mieux avec un RSA, un minimum social, qu'avec un emploi. Et ça, c'est très largement dans la continuité des années précédentes.
Et ça pourrait se corriger.
Ça pourrait se corriger. Alors ça, d'abord, c'est une. Je pense qu'il y a vraiment un diagnostic qui est erroné. C'est-à-dire que les gens ne restent pas dans les minima sociaux par plaisir ou par confort. C'est très peu rémunérateur, c'est très stigmatisant. Ça, pour le coup, ça enferme les gens dans un mode de survie. Et donc, je veux dire, vous rencontrerez très très peu de gens qui ont choisi cette situation. La question, c'est quel accompagnement vous mettez en place? Et là, encore une fois, l'effort de la collectivité n'a jamais été à la hauteur des enjeux pour faire rentrer tous ces gens qui étaient tombés dans les minima sociaux vers la société, vers l'emploi, vers, les institutions normales. Ça, c'est la première chose. L'accompagnement n'a jamais été à la hauteur, mais parce que parce que les dépenses des aides sociales, elles sont aussi reportées sur les départements, donc sur les territoires les plus fragiles. Et donc, il y a des disparités territoriales. En fait, la solidarité nationale, elle est très largement diffractée. Donc ça, c'est aussi un problème extrêmement concret. Et le deuxième enjeu, et qui est tout à fait fondamental, et là, il y a un problème de cohérence avec la suppression d'un très grand nombre d'emplois aidés, c'est vers quels emplois ? Vers quels emplois pour les moins qualifiés, dans quelles conditions, avec quel niveau de rémunération, etc. Je pense que s'il y a un frein, s'il y a une réalité dans l'idée de trappe à inactivité, elle n'est pas tellement liée au fait qu'il n'y a pas de gain monétaire parce que les aides seraient trop élevées. C'est du côté de la qualité, de la disponibilité de l'emploi qu'il faut le chercher. Et donc là, la réflexion, elle doit commencer.
Une question de Camille Manière.
On parle beaucoup d'accompagnement vers l'emploi depuis le début de cet entretien et puis également dans le discours d'Emmanuel Macron. Mais accompagner vers quel emploi, vous commenciez à poser la question. Est-ce qu'en voulant responsabiliser les chômeurs, est-ce qu'on ne les rend pas responsables du chômage ? Et est-ce qu'en responsabilisant les pauvres, on ne porte pas un discours qui les rendrait responsables des inégalités ?
Pour le dire simplement, il y a deux écueils. Il y a l'écueil que vous pointez, qui est évidemment de dire... Les gens sont dans la pauvreté parce que d'abord il y a du chômage, c'est ça, c'est l'absence d'emploi qui crée la pauvreté principalement. Et donc c'est de dire, si on les responsabilise, si on les bouge, en fait on va résoudre la situation et tout va aller pour le mieux. Ça pose évidemment la question de quels emplois, quels débouchés pour ces stratégies. Ça supposerait d'avoir vraiment une réforme du marché du travail ou de l'assurance chômage qui fasse ce que Schröder a fait. C'est-à-dire, Schröder, à partir du début des années 2000, trouve l'Allemagne dans une situation qui est proche de celle de la France, et puis décide, avec les réformes Hartz IV, donc les réformes Hartz IV, succession de lois, de changer les règles du jeu. Fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne a vu le nombre de travailleurs pauvres augmenter, mais ça a résolu le problème que vous signalez. Et l'autre écueil, je dirais, c'est de dire, attention, les aides sociales, c'est très bien, ça empêche de tomber vraiment dans le dénuement absolu, donc ça sert à aider les personnes à vivre et à survivre au quotidien, mais il faut s'en contenter. Et c'est là qu'il y a vraiment une articulation à faire, on pourrait dire, il y a un « et en même temps » à construire, entre le fait d'offrir des prestations qui permettent aux individus d'avoir la vie quotidienne la moins instable, la moins insécure possible, et en même temps de les accompagner dans l'ensemble des dimensions des problèmes sociaux. Parce qu'il y a l'emploi, mais pour avoir un emploi, il faut être dans une condition de logement qui soit pas trop stressante pour pouvoir se projeter juste dans le fait d'avoir un emploi. Il faut avoir des conditions familiales, donc un mode de garde. Il y a 40% des familles monoparentales aujourd'hui en France sont en situation de pauvreté. Donc il y a évidemment des situations de piège. Et là, c'est quelque chose qui a été entendu, je crois. La délégation interministérielle conduite par Olivier Noblecourt travaille sur cet aspect-là de manière intense. Donc le problème a été identifié.
Ciblé, identifié.
Il y a la santé. Donc tous ces enjeux-là, en fait, m'amènent à dire l'accompagnement, il doit évidemment pas être récusé. Ça serait vraiment une erreur de dire les prestations sociales se suffisent, il faut les défendre. Non, il faut accompagner, il faut aider les gens, mais il faut les aider dans la pluralité des dimensions qu'ils rencontrent. Et l'emploi, c'est une dimension importante, mais ça ne peut pas être la seule, elle peut pas être isolée. Sinon, c'est mettre une pression, c'est responsabiliser et c'est exercer, comme on pourrait dire, une forme de chantage. Chantage, si vous n'allez pas sur le marché du travail, vous êtes un mauvais pauvre.
Toujours en termes de philosophie, vous faites le parallèle avec les réformes Schröder en Allemagne. D'autres le font avec celle de Tony Blair en Grande-Bretagne. Cette idée d'inciter aussi les individus, les personnes à se prendre en main, leur redonner une capacité à agir. Dominique Méda estime que ce discours, cette philosophie, ce macronisme social, finalement, n'est pas aussi moderne qu'on le croit, de responsabilisation des individus.
Oui, non, c'est une idéologie très ancienne. C'est une idéologie très anciennes, c'est l'idée au fond dans la si on pouvait essayer de rappeler un grand ancêtre à la philosophie sociale qu'on voit se déployer, c'est du côté de Karl Polanyi et de la grande transformation qu'il faudrait aller chercher. Karl Polanyi dit on va désencastrer le marché, on va faire du marché une construction sociale qui va permettre de résoudre l'ensemble des problèmes de la société. Et cette construction sociale, elle commence avec des lois sur les pauvres de 1834 en Angleterre, et on crée des systèmes de maisons des pauvres qui sont tellement indigentes et tellement repoussantes que finalement n'importe quel individu sensé ou qui est en capacité préférera aller travailler à n'importe quelle condition plutôt que d'y aller. C'est les workhouses. Donc c'est l'idée qu'il faut responsabiliser, qu'il faut inciter, voire éventuellement qu'il faut sanctionner et punir, parce que c'est quand même ça le débouché de cette réflexion. Eh bien, c'est une très très ancienne philosophie sociale et politique. La question qui se pose, c'est dans quel modèle social nous emmène-t-on ? Est-ce que c'est le modèle de type blairiste ou en référence aux évolutions du Royaume-Uni depuis les années 90, où on avait aussi mis l'accent sur la pauvreté des enfants avec une très très forte incitation des personnes à aller sur le marché du travail, ou est-ce que, et c'est là qu'il faudrait rechercher, qu'il faudrait imaginer des solutions vers un modèle nordique dans lequel, au fond, on retrouve des éléments qui peuvent être proches, c'est-à-dire une très, très grande emprise de l'État sur le fonctionnement du système social. Et là, je pense que c'est très, très clairement dans la ligne du discours d'Emmanuel Macron, en tout cas dans la campagne électorale, c'est de dire on va construire une société d'universalité de la protection sociale. Mais là où il y a un piège, et là où il y a un choix de société, c'est que l'universalité de la protection sociale, elle peut se faire de manière ambitieuse et universaliste, comme on le voit dans les modèles nordiques, du nord de l'Europe. Elle peut se faire, on peut dire, au rabais, comme on le voit en Angleterre, avec des prestations minimales qui, évidemment, vont de pair avec de très fortes inégalités et une augmentation de la pauvreté. Donc il ne faut pas se tromper sur le diagnostic et sur le type de société qui est à l'horizon des réformes de la protection sociale.
Et est-ce que ce nouveau modèle social vaut aussi des engagements de l'État ? L'État en mode start-up, pour le juriste Emmanuel Dauquès, si l'État Macron est plus interventionniste, il ne faut pas y voir pour autant un retour de l'État-providence. Écoutez.
En fait, on a une vieille image selon laquelle on aurait d'un côté une espèce d'État interventionniste qui serait une espèce d'État-providence, et puis de l'autre côté, on aurait finalement le jeu du marché. Cette vision du monde est relativement datée. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. On a, particulièrement sous la présidence Macron, on a un État qui est un peu plus interventionniste que le précédent. D'ailleurs, ça se lit à travers l'étatisation justement de l'assurance chômage. On a un État qui est un peu plus interventionniste, mais attention, si ça il ne s'agit pas du tout d'un État interventionniste au sens nationalisation ou au sens État-providence. C'est un État qui est interventionniste, mais qui est entièrement convaincu par une certaine idéologie managériale. C'est-à-dire qu'on considère que la France est une espèce de grande start-up et, ou une grande entreprise qui doit être gérée comme une entreprise. Le ministre du Travail doit être une espèce de super DRH. Et dans cette ambiance-là, finalement, les entreprises françaises ou les régimes de sécurité sociale sont considérés comme des espèces de filiales qui doivent être gérées par l'État, en partie, mais l'État qui intervient non pas comme quelqu'un qui va protéger, en quelque sorte, pas du tout comme un État providentiel, mais l'État qui intervient plutôt comme un cost killer, qui vient vérifier qu'on est dans de la bonne gestion et qui va, par exemple, baisser un certain nombre de prix, éventuellement baisser les protections qui peuvent exister. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit que toute une série, non seulement de services publics, mais de services sociaux, sont dans un état absolument dramatique.
Nous devons bâtir pour le 21e siècle un État-providence de la dignité et de l'émancipation, a rappelé Emmanuel Macron à Montpellier. Quelle place pour l'État dans ce futur modèle pour vous, Nicolas Duvaux ?
Effectivement, l'État est dans une situation très ambiguë dans laquelle à la fois il est en train de reprendre l'ascendant sur des groupes sociaux qui tenaient, qui organisaient, qui géraient la protection sociale, les syndicats à travers le paritarisme. Là, l'ambition est très claire, c'est d'étatiser la protection sociale du point de vue de sa gestion et du point de vue de son financement. C'est ce qu'on a vu avec la CSG et son augmentation et tendanciellement la part croissante que la CSG va prendre dans le financement de la protection sociale. Et en même temps, la place de cet État, ça ne veut pas dire qu'il a une vocation à déployer des protections à l'échelle de l'ensemble de la société, mais bien de créer les conditions, encore une fois, l'accent qui est mis sur l'emploi et le retour à l'emploi montre que les enjeux, c'est de mettre les politiques publiques, entre guillemets, au service du marché ou du fonctionnement du marché. Mais je crois qu'il faut
prendre une forme de libéralisation.
Toutes les formes de libéralisation. Mais il faut prendre au sérieux des éléments de discours qui pointent des vrais défauts et des vraies problématiques de notre modèle social. Parce que le discours, s'il était formulé comme ça, personne n'y accorderait d'attention. Mais il n'est pas formulé comme ça. Il dit attention, notre modèle social, il est trop curatif. notre modèle social, il intervient après, quand les gens sont tombés au chômage, quand ils sont déjà dans la difficulté. Et l'enjeu d'un modèle social du 21e siècle, quand les gens vont devoir changer d'emploi très souvent, quand il va y avoir des séparations, des remises en couple, des transformations de la vie sur tout le cycle, eh bien, l'enjeu, c'est de prévenir, c'est d'aider les gens à faire face à des défis, c'est d'être en capacité de les affronter. Et donc là, il y a un élément qui est tout à fait juste et qui tient au fait que notre système de protection sociale, il a d'abord été conçu pour protéger l'emploi salarié masculin dans une période où vous aviez du plein emploi et où vous aviez aussi des familles stables. Je reviens sur la question des familles monoparentales. Pourquoi sont-elles si pauvres? Pourquoi sont-elles si atteintes par les différents risques sociaux? Parce qu'elles sont à la croisée. Elles sont à la croisée des risques du point de vue du marché du travail et des transformations familiales dans un contexte de mondialisation, de globalisation, de financiarisation. Donc c'est bien sur ces éléments de diagnostic pertinents qu'on construit une stratégie sur laquelle, encore une fois, pour l'instant,
pertinent et extrêmement mouvant, d'après ce que vous nous dites aussi, Nicolas Dubouc, comme sol. Donc on est en pleine mutation, on ne sait pas exactement où on va, on peut faire un début de constat ou de diagnostic sur l'état des choses, mais un peu partout finalement, dans les sociétés occidentalisées, en Occident ou dans les pays industrialisés, on peut se demander, à l'heure de la mondialisation ou de la démondialisation, de la décroissance, comme vous le dites, quelle solidarité pratiquer, laquelle est envisageable.
C'est là que, au fond, les accusations portées au système d'aide sociale sont assez injustes. C'est que si on regarde la situation de la France vis-à-vis des autres pays européens, parce qu'on ne va pas regarder du côté des États-Unis, où là, il y a eu clairement une volonté de quasiment démanteler, éradiquer les protections étatiques au profit de solutions privées dans le domaine de la santé, de l'éducation ou du social, la France se défend plutôt bien. C'est-à-dire que les prestations sociales font baisser la pauvreté de 8%. Si on enlevait les protections sociales, on aurait 8% de pauvres en plus. Les pauvres seraient beaucoup plus pauvres. Donc, on a un modèle social qui produit des résultats, qui arrive à contenir les inégalités et la pauvreté par rapport à ce que font nos voisins. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à construire là-dessus pour améliorer et combler les failles et les déficiences, notamment dans le domaine de l'accompagnement. L'idée n'est pas de baisser ces prestations et, au fond, d'exercer une pression sur les individus qui sont déjà les plus fragiles pour les forcer à retourner vers un hypothétique emploi.
Ça, ce que vous dites, c'est un peu une réponse à la question le pognon pour corriger ou réparer les inégalités. On ne sait pas exactement où on le prend, mais on voit à peu près où le mettre.
Oui, le pognon pour corriger le pognon sert à corriger les inégalités et à éviter la diffusion de la pauvreté. Ça, c'est tout à fait, c'est démontré. Les aides au logement, les minima sociaux sont les éléments qui constituent les budgets des ménages les plus modestes. Donc ça, il n'y a pas de doute. C'est là la question, c'est comment est-ce qu'on va au-delà. Là, il y a deux options, encore une fois. Soit on les baisse pour exercer une pression sur les gens pour qu'ils sortent et qu'ils retournent vers des emplois même peu qualifiés, même des emplois très peu gratifiants à tous les points de vue. Ou alors, est-ce qu'on construit sur ces protection sociale, des formes d'accompagnement qui vont permettre aux gens de réintégrer dans des conditions décentes le marché du travail notamment.
Une question de Camille Manière.
Sur le logiciel qu'a en tête Emmanuel Macron sur le système social, la solidarité sociale, tout ça me fait penser à une déclaration qu'il avait faite au détour d'une interview en avril. On l'interrogeait sur le président des riches, il disait « je ne suis pas le président des riches, les riches, eux, ils n'ont pas besoin de président ». Avec toute une réflexion qui apparaissait derrière sur les riches, ils n'ont pas besoin de la solidarité nationale, de la République finalement, et de tous des services publics. Ça, on peut tirer cette ligne pour y voir justement le fait que les services publics seraient réduits finalement à un filet de sauvetage pour les plus démunis et qu'il n'y aurait plus cette idée de cohésion, de solidarité dans tous les niveaux de la société.
Oui, là, il y a deux niveaux dans ce que vous dites. Le premier, c'est le niveau symbolique. Mais évidemment, l'impôt de solidarité sur la fortune, dont il ne vous a pas échappé qu'il avait été très fortement diminué et réformé, avait été institué pour financer le RMI. Donc l'idée était très claire, c'était d'instaurer une sorte, en 1988, d'instaurer une sorte d'équilibre entre les plus riches sur qui on prélevait pour financer des prestations pour ceux qui étaient sortis du cadre des assurances sociales, parce que précisément le chômage de longue durée commençait à produire ses effets. Donc il y a un niveau symbolique dans lequel évidemment là, le lien entre les extrêmes de la société il tend à être rompu. Le deuxième point, c'est sur celui de qui bénéficie des services publics, des aides sociales, des différents types de prestations. Et là, il ne faut pas se tromper, tout le monde en bénéficie. Mm-hmm. Tout le monde en bénéficie, les entreprises à travers le CICE, les allocations familiales et tout un ensemble de droits qui, en fait, quand on regarde bien, bénéficient aux parties supérieures de la société. Quotient familial, il faut payer l'impôt sur le revenu. Pour payer l'impôt sur le revenu, il faut se situer à peu près dans la moitié supérieure de la distribution des revenus. Donc, vous avez tout un ensemble de mécanismes qui font d'ailleurs que ça tient. C'est-à-dire que si les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures, tout d'un coup, ne comprennent plus l'intérêt qu'elles ont à contribuer à un système, à travers l'impôt ou à travers des cotisations quand il s'agit des assurances, on peut préjuger qu'à court, moyen ou long terme, vous allez avoir un abaissement des montants qui circuleront à travers le système de protection sociale et du coup un ciblage très réduit sur des populations pauvres. L'enjeu, en fait, ce qui est difficile à comprendre, mais je pense qu'il est très important quand on le voit très bien sur l'exemple des retraites. Parce que s'il y a un truc dont personne ne peut remettre en cause l'efficacité pour lutter contre la pauvreté, c'est les retraites. Parce que dans les années 50, 60, 70, les pauvres, c'était les personnes âgées. Les retraites sont arrivées, elles ont sorti les personnes âgées de la pauvreté. Alors peut-être qu'on en fait trop pour elles, c'est pour ça que la CSG a été instaurée. Mais en tout cas, il y a cette idée que quand on a des dispositifs qui vont couvrir l'ensemble de la population et non pas seulement les pauvres, on arrive à lutter contre la pauvreté. Donc moi, ce qui m'interpelle dans ces débats, c'est qu'on oublie que la prévention, elle se fait à travers l'emploi, c'est tout à fait évident, mais elle se fait aussi à travers la construction de protections sociales qui sont beaucoup plus générales, beaucoup plus universalistes, beaucoup plus inclusives. Comme ça, on évite aux gens de tomber dans des situations d'aide sociale qui comportent tous les défauts qu'on peut leur attribuer. Mais encore une fois, ces défauts ne sont pas la cause. C'est le symptôme du fait qu'il y a eu des défaillances à d'autres étages de la protection sociale ou de l'intégration sociale des individus. Et donc on a un raisonnement, pour le dire simplement, inverse les effets et les causes.
Auteur notamment du Nouvel Âge de la solidarité et de l'autonomie des assistés, le sociologue Nicolas Duvaux est notre invité jusqu'à 13h30.
France Culture. La Grande Table, Olivia Gesbert.
On a évoqué ensemble les métamorphoses de la solidarité sociale depuis 13 heures, Nicolas Duvaux. On voit qu'on assiste depuis les années 70 plus à un changement de paradigme qui se conforterait aujourd'hui par un glissement, une fois encore, de la responsabilité collective petit à petit à la responsabilité individuelle. Il y a un mot, un anglicisme qu'on n'a pas encore prononcé, celui de empowerment qui sous-entend l'importance d'aider chacun à se réapproprier aussi une part du pouvoir, peut-être face au retrait de l'État sur ces questions-là, c'est-à-dire de donner aux gens plus de pouvoir et une capacité à maîtriser leur propre destinée. Est-ce que c'est une réponse ou en tout cas, est-ce que c'est une étape peut-être nécessaire à l'avenir, d'après vous, Nicolas Duvaux ?
De toute façon, c'est une voie à explorer. C'est-à-dire que dans une société qui, comme la France, fait une confiance accorde une confiance très grande, notamment aux élus locaux, c'est-à-dire à la démocratie représentative, hein, telle qu'elle fonctionne à l'échelle des communes. Tout ce qui peut contribuer à d'autres formes de participation démocratique, tout ce qui va permettre l'implication des habitants, des quartiers populaires ou périphériques, mais des autres aussi. Et tout ça est évidemment positif. Et ça donne un signal de demande aussi de reconnaissance, d'appartenance à la collectivité à un niveau individuel et collectif. Par contre, là où j'exprimerai une forme de scepticisme, là c'est le détour américain qui me conduit à avoir cette vision-là, c'est que je pense qu'il faut pas... Il ne faut pas avoir non plus d'idéalisation de ces solutions qui permettent un engagement local, qui sont souvent très très porteuses pour les gens et au moins de dignité, c'est-à-dire de ne pas subir les situations et de se rassembler. Mais quand on construit des systèmes de solidarité, quand on construit des circuits financiers institutionnels qui ont vocation à couvrir l'ensemble de la population, je crois qu'il faut aussi raisonner avec en tête la nécessité du maintien des grands équilibres financiers. et du lien avec l'économie. Et c'est pour ça que les questions qui sont posées peuvent l'être mal ou pas comme on le souhaiterait, mais elles sont importantes. C'est-à-dire que si on déconnecte totalement la protection sociale du fonctionnement du marché, du fonctionnement de l'économie, on est sûr qu'on va arriver à une situation où, au fond, ne subsistera qu'un filet de sécurité très très minimal pour tous ceux qui ne seront pas en capacité de jouer la compétition du marché. Et c'est pour ça que moi j'ai quand même la conviction qu'il faut, chercher les solutions les plus inclusives, les plus universalistes, mais sans perdre le lien entre le fonctionnement de l'économie, pour le dire simplement, et le fonctionnement de la protection sociale.
Gaby Manière, une dernière question.
Je vous la laisse.
Alors, j'y vais. Sur les scénarios d'avenir, je voulais voir avec vous, Nicolas Duvaux, à partir de ce qui a été dit, parce que c'est vrai qu'on a des réformes qui ont déjà commencé à être mises en place depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, d'autres à venir. Qu'est-ce qui est en train de se tramer précisément? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de notre solidarité?
L'avenir, c'est le choix qui va être opéré entre la recomposition d'un modèle relativement universaliste comme celui que la France avait construit avec ses assurances autour de l'action, de l'impulsion de l'État. Là, on se dirigerait vers le nord de l'Europe. Ou un modèle plus libéral, plus inspiré par le précédent britannique ou allemand, avec l'idée de renforcer les incitations de marché pour les gens. Je pense qu'il est très clair que tous les débats dont on parle sont évidemment très importants, que c'est difficile d'en parler parce qu'on n'a pas les arbitrages concrets. Et donc, sur la question de l'emploi et le lien entre les prestations sociales et l'emploi, on ne sait pas. Est-ce que va y avoir une impulsion étatique avec des financements? C'est possible. Est-ce qu'il va y avoir...
Ça, ce sont des arbitrages qui seront pris à Bercy?
Qui seront annoncés par le président début juillet, mm-hmm. si j'ai bien compris. Donc, on va avoir soit un investissement étatique dans la pauvreté des enfants, l'accompagnement, c'est possible. Soit on va avoir des solutions de baisse des prestations sociales avec l'idée, là, vraiment de renforcer très fortement les incitations de marché. Ça, je ne sais pas. On en reparlera. Mais de manière plus systématique et plus structurelle, je pense qu'il y a un grand chantier qui est devant nous, qui est celui de la retraite. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on parle des prestations sociales, les aides sociales pour les pauvres, on en parle beaucoup parce qu'il y a certains qui pensent que ceux qui les touchent ne les méritent pas. Et donc, ça fait parler, hein, beaucoup d'acteurs politiques. Mais les grands enjeux, les grandes masses financières, elles vont tourner notamment sur la santé, mais aussi sur les retraites. Et ça, c'est vraiment la réforme qui est à l'horizon de l'année prochaine.
Et donc, c'est déjà compliqué aujourd'hui. Vous pensez que demain, il sera bon d'être retraité ou pas?
Je pense qu'il sera moins bon pour les retraités dans plusieurs générations par rapport aux retraites d'aujourd'hui. La question est dans quelle mesure.
Merci beaucoup à vous, Nicolas Duvaux, d'être passé autour de cette grande table. Merci aussi à toute l'équipe qui a préparé et programmé cette émission durant toute la semaine, à Claire Maillot et Clémence Marie, à Maxime Morin et à Coppelia Ménardi, avec l'aide précieuse de Liana Valken et d'Émile Boutelier. À la réalisation aujourd'hui, Perry Legras avec Bruno Gagnère. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle grande table avec notamment dans la première partie de l'émission un coup de projecteur sur la Alberto Giacometti Mania qui est à l'œuvre du cinéma jusque dans les salles d'exposition. Retour sur l'œuvre d'un peintre sculpteur absolument extraordinaire avec Catherine Grenier. Toutes les informations de la semaine sont à retrouver sur notre site La Grande Table sur franceculture.fr. Très bel après-midi.